Bonjour à tous, vous écoutez La Parola, le podcast de la Fédération Gay-Lussac, 20 écoles de chimie et de génie des procédés, qui vous emmène à la rencontre de ceux qui, grâce à la chimie, répondent aux grands défis qui attendent notre société pour un monde plus durable. Bonjour à tous, auditeurs de La Parola. Nous sommes en direct du séminaire de la Fédération Gay-Lussac qui a lieu à Toulouse et nous avons parlé aujourd'hui, toute la journée, avec les directeurs des 20 écoles de chimie, directeurs des études et les autres personnes qui sont présentes à ce séminaire d'intelligence artificielle. Vaste sujet et nous avons la chance de pouvoir échanger avec Fabrice Jumel. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur en robotique de service à CPE Lyon. Vous êtes rattaché au CityLab équipe INRIA Chroma de Lyon et donc nous allons avoir un moment pour essayer de comprendre ensemble ce qu'est l'intelligence artificielle et peut-être ce qu'elle va apporter au secteur et au métier de la chimie pour nos futurs ingénieurs chimistes. D'abord, Fabrice, je vous pose une question très bête, mais l'intelligence artificielle, c'est quoi ?
Vaste question. Définir l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas facile. En fait, il faut plutôt voir dans plein de directions en même temps. Dans les définitions habituelles qu'on peut donner de l'intelligence artificielle, il y a d'une part le fait de régler des problèmes de haut niveau qui nécessitent des algorithmes compliqués. Une autre définition, c'est tout ce qui est autour du biomimétisme. Donc on va dire par exemple que l'intelligence artificielle, c'est le fait d'imiter soit le fonctionnement autour des animaux, par exemple l'usage des phéromones chez les insectes, ou d'essayer d'imiter les fonctions cognitives du cerveau. Une autre définition, c'est de se dire que l'intelligence artificielle, ça démarre à partir du moment où on a des phases d'apprentissage, où on a en fait des données, et on va devoir apprendre par rapport à ces données pour ensuite régler des problèmes nouveaux. Et la dernière définition, et c'est celle que je préfère, c'est celle qui dit que finalement l'intelligence artificielle, c'est le nom qu'on donne à un algorithme qu'on ne comprend pas. Et ben, l'idée, c'est que même si vous êtes expert de plein de choses en intelligence artificielle, dès que vous n'êtes pas l'expert sur ce domaine-là, vous parlez d'intelligence artificielle. Par contre, quand c'est votre domaine d'expertise, cette intelligence artificielle, elle va avoir un nom très précis, par exemple GPT-3.5, par exemple des CNN, etc. Et du coup, l'intelligence artificielle, quelque part, ça regroupe un petit peu la limite de notre compréhension.
Donc il n'y a pas une intelligence artificielle, il y a plusieurs intelligences artificielles.
C'est ça.
Alors on entend parler de machine learning, deep learning, IA générative. Ce sont des thèmes peut-être un peu complexes, un peu barbares. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer ?
Oui. Alors, le premier, c'est le machine learning. C'est un peu l'idée que on développe un algorithme, mais cet algorithme, en final, donc un algorithme, c'est l'outil de base informatique pour régler des problèmes. Généralement, on imagine qu'un algorithme va traiter un problème et donner une réponse. Malheureusement, dès que c'est un petit peu compliqué, en fait, il y a besoin d'une phase d'apprentissage de cet algorithme. C'est-à-dire qu'il faut lui donner plein de données, et c'est en faisant cet apprentissage, donc on parle de machine learning, qu'on va pouvoir petit à petit calibrer les détails de cet algorithme de façon à ce qu'ensuite, il soit fonctionnel. Ensuite, on a les réseaux de neurones. Donc les réseaux de neurones, c'est un cas particulier du machine learning dans lequel en fait on a une imitation du fonctionnement du cerveau. Et l'idée, c'est que on essaye de copier le fonctionnement des neurones du cerveau. C'est une forme de machine learning. Et le deep learning, en fait, c'est l'idée d'utiliser les réseaux de neurones dans un cadre particulier. En particulier, on va parler de la notion de couche. Et l'idée, c'est de spécialiser chacune de ces couches du réseau de manière à pouvoir, dans un problème complexe, quelque part le diviser en sous-parties. La particularité du deep learning, c'est qu'on n'a pas besoin d'imaginer à l'avance comment, pendant l'apprentissage, ces couches vont se spécialiser sur certaines tâches. Et c'est ça qui fait vraiment la magie du deep learning, c'est que le simple fait de découper en couches fait que le système par lui-même va diviser un petit peu la problématique et ça va vraiment améliorer la convergence et le fait qu'à la fin, le système soit opérationnel.
Et l'IA générative ?
L'IA générative, là, on est dans tout le domaine du fait de générer à la fin quelque chose. Historiquement, les IA sont plutôt des outils qui vont faire, par exemple, de la classification. C'est-à-dire, je lui présente quelque chose et elle me dit « Ah ben ça, c'est un chat, ça, c'est un chien ». Je lui donne un document et elle va me dire « ce document, c'est quelqu'un qui est en colère qui l'écrit ». Dans le cas des IA génératives, en fait, l'idée, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, lui dire « Génère-moi un texte » et le système va générer un texte. On va lui dire « Génère-moi une image » et le système va générer une image. Ce qui est assez particulier dans le domaine des IA génératives, c'est que finalement, comprendre un document ou le générer, mathématiquement, c'est quasiment la même chose. Et ça fait qu'en fait, les mêmes architectures de type deep learning permettent très facilement de passer de « je comprends que dans cette image, il y a un chat » à « je sais générer des images de chat ».
Alors, vous parlez de neurones. Est-ce que ce sont des neurones comme les nôtres ou est-ce que ce sont d'autres neurones ?
Alors, Ce sont des neurones, entre guillemets, informatiques, c'est-à-dire que c'est une vision simplifiée du fonctionnement de notre cerveau. On a reproduit globalement de l'électricité qui passe à travers nos neurones. Par contre, on a vraiment changé la notion de ce qu'on appelle les poids d'entrée, c'est-à-dire que dans un réseau de neurones, chose importante, c'est les paramètres du neurone. Donc on va avoir les poids d'entrée et un biais. Et le neurone, en final, il est représenté par un certain nombre de poids vis-à-vis de ses entrées et par ce biais. Et le neurone, à la fin, il a une sortie, et cette sortie va être activée en fonction d'une règle extrêmement simple pour dire est-ce qu'on a atteint un certain seuil si on fait la somme pondérée des entrées plus le biais, et si jamais ce seuil est atteint, on va dire que le neurone s'active. Dans le cas des réseaux de neurones qu'on trouve dans le cerveau, on a un fonctionnement qui est à peu près équivalent, sauf que la notion de poids n'est pas pareille, et en fait, la notion de poids, elle est remplacée par une structure géométrique de ce qui se passe entrée des neurones. Et accessoirement, cette partie-là au niveau biologique est encore relativement incomprise. C'est-à-dire que ce qu'on fait en informatique, qui est de modéliser sous forme de poids et l'état du système, dans le cadre de la réalité, on ne sait pas trop où est stockée l'information dans un réseau de neurones réel.
Donc copier mais pas égaler.
Exactement.
On dit que sur l'IA générative, on peut éduquer en fait l'IA, lui apprendre à nous donner les données qu'on souhaite obtenir. Est-ce que c'est ça, une forme d'éducation de l'IA?
Alors, il y a différents types d'IA générative. Aujourd'hui, les deux grands domaines dans lesquels on génère des choses, c'est d'un côté le texte et de l'autre côté les images. Donc si je prends par exemple le cas des images, on va faire qu'une IA regarde beaucoup d'images. Ces images, au début, on va les labelliser, c'est-à-dire qu'on va dire ce que contiennent ces images. Le réseau de neurones va apprendre à reconnaître qui se trouve dans les images, et comme on disait précédemment, c'est quasiment mathématiquement la même chose que de générer à partir du moment où on sait trouver l'information. Et donc, du coup, inversement, on va pouvoir lui donner une liste de choses que doit contenir l'image, et elle va pouvoir nous générer automatiquement une image. Ça, c'est un petit peu le fonctionnement de base. Par contre, si jamais vous vouliez générer une image avec un style particulier, ben, il se peut que cette phase-là vous suffise pas, et qu'en fait, en entrée, vous allez ensuite lui donner une information, par exemple, je veux une image qui contienne telle et telle chose, mais il se peut aussi que vous allez lui donner aussi en entrée une image qui soit, par exemple, le style d'un auteur qui est votre graphiste préféré, pour qu'elle génère des images équivalentes. Et dans le cas des textes, on a une problématique un peu équivalente, c'est-à-dire que, de base, une IA générative, on parle de LLM, dans ce cas-là, Large Language Model, elle va être capable de générer des textes. L'idée, c'est que pour générer ces textes, elle a lu des tonnes de choses, elle a lu des milliards de pages à la fois de Wikipédia, de documents, etc. Et ensuite, elle va pouvoir générer des textes. Ces textes, on va pouvoir un peu les spécifier en lui donnant une information précise de ce qu'on attend dans ce texte. Et dans des cas plus particuliers, on va parler par exemple de fine-tuning, on va lui donner un apprentissage supplémentaire pour, par exemple, qu'elle apprenne à générer des textes qui correspondent exactement à notre besoin.
Et vous disiez ce matin quelque chose qui m'a interpellée, parce que j'ai eu la chance de vous entendre ce matin à la conférence, qu'on pouvait récompenser la machine d'avoir bien fait son travail. Comment est-ce qu'on récompense une machine?
Alors, le fonctionnement du machine learning, de l'apprentissage, il est vraiment orienté sur la récompense. Donc, mathématiquement, il faut imaginer que votre objectif, c'est par exemple de bien jouer aux échecs. Si vous avez un choix dans vos poids de réseau de neurones qui fait que vous jouez bien aux échecs comparé à un autre choix de poids, eh ben, il faut privilégier les poids qui marchent bien. Et donc, on a toute une phase de récompense, et c'est ça l'originalité des réseaux de neurones, et c'est ça vraiment qui a fait que c'est fonctionnel, c'est ce qu'on appelle les équations de backpropagation, qui en fait, on définit comment mathématiquement, on peut définir comment il faut faire évoluer chacun des poids de chacune des couches par rapport au fait de savoir est-ce qu'on est satisfait ou pas de la réponse. Généralement, dans le cas du machine learning, c'est pas une réponse individuelle pour que l'apprentissage aille plus vite. Globalement, par exemple, on va lui soumettre un millier d'images, et on va faire évoluer le réseau par batch, c'est-à-dire qu'on va faire une correction par rapport à est-ce que sur ces un millier d'images, il a plus ou moins bien répondu. Et on fait une correction globale, et à force d'itération, eh ben, le réseau va converger dans un état qui fait qu'il répond de mieux en mieux.
Donc c'est un peu comme une bonne note, la machine reçoit ça.
C'est exactement ça, oui.
Ouais, okay. Alors, IA et chimie, quels sont selon vous les grands changements, les opportunités qui s'offrent au secteur de la chimie grâce à l'IA?
Depuis longtemps, la chimie s'intéresse à l'intelligence artificielle. Si on voit les choses un petit peu dans une perspective historique, l'intelligence artificielle, ça se met en place dans les années 50, en particulier sous l'impulsion d'Alan Turing. Et dans les premières choses qui sont faites, il y a l'idée de mettre en place des machines capables de jouer aux échecs. Et c'est des choses qui sont faites, par exemple, dans les années 56, on commence à faire que les ordinateurs jouent aux échecs. Mais très rapidement, on essaye de régler des problèmes de la vie courante, entre guillemets, de la vie courante professionnelle. Et dans les utilisateurs assez récents, on a la chimie. Donc on a en particulier un système, on appelait ça à l'époque un système expert, c'est-à-dire un système à base de règles. Et l'idée, c'est de pouvoir automatiser des conclusions. Et la chimie, ça a été un des premiers endroits où on a trouvé la mise en place de ces systèmes experts pour, par exemple, pouvoir définir quelles allaient être les conséquences d'associer certaines molécules, quels étaient les produits ou les réactifs qui devaient être mis en jeu, quels allaient être les résultats obtenus. Et donc, ça a déjà été fait dans la logique des systèmes experts. Donc, il y a déjà un grand historique au niveau de l'usage de la chimie et de l'IA. Donc, plus récemment, on a eu des travaux qui ont été faits donc dans des choses très récentes. Donc AlphaFold s'intéresse au principe de repliement en biochimie où en fait on a des acides aminés, on a des séquences d'acides aminés et tout ça donne des protéines. Et une chose qui est très importante, c'est que ces protéines ont des logiques d'interaction extrêmement complexes. Et pour pouvoir comprendre les interactions de ces molécules extrêmement complexes, on a en fait besoin de connaître très précisément la forme géométrique que va prendre le repliement de ces protéines. Et du coup, de voir comment elles vont pouvoir se combiner les unes avec les autres. AlphaFold, en fait, a mis en place un nouveau moyen de pouvoir prédire le repliement de ces protéines. Et du coup, c'est vraiment une étape centrale et importante pour ensuite pouvoir dériver comment les molécules extrêmement complexes vont pouvoir interagir entre elles. Si on prend cet exemple-là, ça nous amène à une chimie où, en fait, on peut prévoir comment les choses vont interagir, même dans le cas de molécules très très complexes, et les protéines font partie de ce qui existe de plus complexe à la fois dans le monde du vivant et de manière générale dans le monde de la chimie. Si on n'avait pas ce type d'outil, on ne pourrait pas envisager ce genre d'application. Maintenant, de manière plus générale, la chimie a besoin de gérer beaucoup de documents, a besoin de gérer des processus industriels, a besoin de gérer des logiques de chaînes de production avec des données, des capteurs, etc. Et donc à tous ces moments-là, on a besoin potentiellement d'intelligence artificielle. On peut avoir besoin d'une intelligence artificielle pour nous aider à lire des articles scientifiques, de savoir les résumer. On a besoin éventuellement de l'intelligence artificielle pour savoir si certains procédés ont été brevetés et du coup de pouvoir voir si on a une nouveauté à breveter dans un certain domaine. Quand on a tout un processus qui est mis en place, le fait d'analyser les données qui viennent du procédé vont nous permettre de l'optimiser, vont nous permettre en particulier de voir s'il n'y a pas des gradations, des problèmes et de pouvoir trouver des solutions. Donc du coup, de manière général, on se retrouve dans un domaine où on a besoin de générer des documents à forte valeur ajoutée et l'IA peut nous aider à ça. Et d'un autre côté, on a besoin de modéliser des processus extrêmement complexes. Et si on cite le cas d'AlphaFold, ça permet de faire des prédictions d'organisation dans le cas de molécules extrêmement complexes.
Alors les élèves qui arrivent en école d'ingénieurs chimistes, ils se servent déjà de l'intelligence artificielle, ne serait-ce que pour réviser leurs cours, répondre à des questions complexes, faire des recherches, etc. Est-ce que l'IA est intégrée dans l'enseignement dans les écoles de la FGL ?
Alors, comme pour toutes les écoles au niveau enseignement supérieur, il y a de plus en plus d'usages de l'intelligence artificielle. Dans le cas de la FGL, on a en particulier les écoles de Toulouse qui sont vraiment en pointe sur l'usage en particulier pédagogique des intelligences artificielles. Si je prends le cas de mon école, donc ACPE Lyon, c'est des choses qui sont en développement. On a comme projet de créer une filière spécifique autour de IA et chimie, dans lequel ces enseignements, et là les enseignements au sens large, pas simplement l'usage des IA pour, on va dire, générer des documents et s'aider à faire ces révisions ou autres, sera vraiment central.
D'accord. Est-ce qu'il y a aussi de la sensibilisation à faire auprès des jeunes qui sont dans les écoles? Et si oui, sur quel sujet en particulier?
Alors, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est qu'il faut utiliser des outils comme ChatGPT. C'est-à-dire qu'il faut faire ses propres expériences, comprendre que ce qu'on appelle le prompt, c'est-à-dire la façon dont on va interroger le modèle, va avoir beaucoup de conséquences sur les résultats qui vont être obtenus. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'aujourd'hui, les élèves, ils ont du mal à faire la part des choses entre je vais avoir une note et du coup, je rends un document qui va être noté et le fait d'être dans une logique d'apprentissage. Donc, ce qui est vraiment important au niveau des élèves, c'est de comprendre que le meilleur usage d'une intelligence artificielle, c'est pas de faire le travail à sa place. C'est de s'assurer qu'on a bien compris ce qu'on nous demande. Et en fait, l'intelligence artificielle ne doit pas être utilisée pour faire le travail à sa place, mais elle doit surtout être utilisée pour nous challenger. Parce qu'il faut vraiment imaginer qu'on a un coach à domicile, et ce coach peut nous challenger, et il peut vraiment comprendre toutes les fautes qu'on fait et essayer de nous corriger. Une chose qui est vraiment importante dans la sensibilisation des élèves, c'est, oui, il faut utiliser ces outils pour déjà voir comment ils peuvent nous aider et ce qu'ils sont capables de faire, mais très rapidement, il faut comprendre qu'il faut aller beaucoup plus loin avec ces outils et il faut surtout les utiliser pour améliorer ses compétences.
Est-ce que les premiers à sensibiliser et à convaincre et à qui vraiment donner des explications, ce n'est pas les enseignants-chercheurs ?
Notre rôle en particulier, si je prends mon cas à moi, je travaille avec des outils d'IA, c'est quelque chose que je fais au quotidien depuis très longtemps. Je fais que les étudiants doivent utiliser des IA. J'ai encore, à titre personnel, à vraiment améliorer l'usage des IA dans leur apprentissage, c'est-à-dire comment s'en servir au mieux. Ce qui par contre est très intéressant, c'est surtout les discussions qu'on peut avoir entre collègues et en particulier de voir comment les expériences des uns en utilisant les intelligences artificielles peuvent éclairer les autres et comment globalement on peut avancer tous ensemble avec des sensibilités très différentes.
Peut-être si on devait retenir une innovation, un changement majeur concernant les écoles de chimie, d'ingénieurs chimistes de la FGL dans les 10 prochaines années, liées à l'IA, s'il fallait en retenir une, ce serait quoi ?
Moi, une chose qui m'a vraiment marqué, je prends le cas de CPE Lyon, on a beaucoup de laboratoires de chimie qui sont associés à l'école. On a des grandes salles de paillasse et ces dernières années, ces salles de paillasse, elles étaient plus utilisées. Et j'ai discuté avec des doctorants de ces laboratoires de chimie et en fait, ils me disaient, aujourd'hui, on utilise en fait principalement des simulateurs, principalement à base de physique quantique, et on va être capable de modéliser nos réactions. Donc pour moi, le changement qu'il va y avoir dans ces domaines-là, qui est vraiment important, c'est que là, aujourd'hui, on a déjà les simulateurs. Et la phase suivante, c'est d'utiliser ces simulateurs en donnant le contrôle à l'IA de manière à ce qu'elle-même puisse savoir ce qu'elle veut tester dans ces simulateurs. Donc pour moi, dans ces 10 prochaines années, on va passer de physique-chimie sur ordinateur à une chimie sur ordinateur contrôlée par une intelligence artificielle, bien entendu, toujours sous la surveillance, la maîtrise, les directives d'un humain.
Merci Fabrice. Est-ce qu'il y a un dernier mot ? Que vous voudriez dire avant qu'on termine cet entretien ?
Il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, c'est toutes les problématiques autour de l'éthique. Donc c'est vrai que l'intelligence artificielle fait peur. Elle fait peur surtout par manque de connaissances, mais elle amène des craintes sur l'idée que on peut se sentir dépossédé de nos propres connaissances, de nos propres compétences. Et ça, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. Et donc, là-dessus, il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle aujourd'hui est un outil, que cet outil est un outil qu'on doit utiliser pour s'améliorer, que si le seul usage qu'on fait de l'intelligence artificielle, c'est de se dire ça va faire le travail à notre place et qu'on est les premiers à le faire, par exemple en tant qu'étudiant, de se dire « Oh, moi maintenant, je vais essayer de faire tous mes devoirs par une intelligence artificielle », c'est clair qu'on est face à un problème. Si par contre, on se dit qu'aujourd'hui, on sait régler des problèmes, mais qu'en utilisant une intelligence artificielle, on va être capable de régler des problèmes qui nous semblaient insurmontables, ce qui nous semblait hors d'atteinte, et bien là, on aura vraiment gagné quelque chose. Et pour moi, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est du même niveau qu'à une époque où on a eu les bibliothèques qui nous ont permis d'accéder à la connaissance. On a eu ensuite Internet qui nous a permis d'accéder de partout et gratuitement à cette connaissance. Là, l'intelligence artificielle, elle doit être là pour nous aider à accéder de manière intelligente à toute cette connaissance. Si par contre, on s'enlève de l'équation et on se dit que les choses vont être faites sans qu'on ait besoin d'y passer du temps, là, on se trompe. Si par contre, on se dit qu'on va se fixer des challenges qui nous semblaient impossibles à atteindre dans le passé et qu'on va quand même réussir à les avoir grâce à l'intelligence artificielle, là, on aura vraiment gagné quelque chose.
Merci beaucoup. Merci, Fabrice. Ce sera donc le mot de la fin. Vous avez aimé ce podcast ? Dites-le en mettant 4 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous à notre chaîne de podcast, la Fédération Gay-Lussac fait sa chimie. Et retrouvez-nous sur notre site internet 20écolesdechimie.com et nos réseaux sociaux. À bientôt !